Culture sans frontières.
Des fleurs qui ne poussent nulle part. C'est ainsi qu'Anna Zemankova, une figure importante de l'art brut décédée en 1986, présentait ses dessins, des œuvres qui charment aussi bien par leur forme monumentale et par leur couleur que par le nombre de détails. Jusqu'au 26 novembre prochain, 160 de ses dessins sont exposés dans le cadre d'une grande rétrospective consacrée à l'artiste tchèque à la célèbre collection de l'art brut de Lausanne. Une monographie et un film documentaire sont également sortis récemment pour rendre hommage à cette femme hors du commun. Alžběta Hruškova vous propose de découvrir le parcours et l'œuvre d'Anna Zemankova à travers les yeux de sa petite fille et de deux autres historiens de l'art, dont la commissaire de l'exposition, Pascal Jeanneret.
Les représentations d'Anna Zemankova ne sont absolument pas des reflets de la réalité concrète qui est la nôtre. Elles font appel à son inconscient, à son imagination, à un monde qui n'est pas réel, mais qu'elle fantasme. On découvre dans les œuvres d'Anna Zemankova une liberté très grande, un mélange de différentes influences, comme notamment l'influence florale ou l'influence animale, l'influence d'un univers sous-marin, aquatique, ou peut-être des éléments relatifs à des microcosmes, hein, des petits insectes ou des petits êtres invisibles. Il y a également le corps humain et la maternité qui font partie de ces thématiques, ainsi que tout ce qui relève de l'imagination extraterrestre qu'elle aimait beaucoup. Voilà, tout se mélange et ça donne un monde floral, animal, végétal, tout à fait imaginaire.
Qui était donc Anna Zemankova? Sa petite fille, Terezie Zemankova, spécialiste et propagatrice de l'art brut, terme désignant les créations spontanées d'artistes autodidactes et qui gère aujourd'hui sa succession, avait seulement 11 ans quand sa grand-mère est décédée en 1986.
Je me souviens d'elle comme d'une femme majestueuse, chaleureuse, mais aussi très très malade parce que dans mon enfance, elle a déjà souffert d'un diabète assez fort. Elle s'est fait amputer la deuxième jambe. Donc elle a passé ses derniers jours dans une maison de retraite où toute la famille venait chaque semaine lui rendre visite. Je me souviens d'elle comme d'une femme qui était complètement équilibrée, malgré toutes ses maladies, toute son douleur. Mais je pense qu'elle n'était pas comme ça avant qu'elle avait commencé à créer.
Prothésiste dentaire de formation et mère au foyer durant la majeure partie de sa vie, Anna se met à dessiner au début des années 1960 à l'âge de 50 ans alors qu'elle traverse une crise familiale. Son mariage n'est pas heureux, ses enfants grandissent et Anna ne sait plus où investir toute son énergie. Elle est ébranlée, très frustrée et toute la famille souffre de ses dépressions et de ses changements d'humeur. Un jour, ses deux fils, Slavomir et Bohumil, trouvent dans la cave une valise plein de dessins. « C'est moi qui les a faits, plus jeunes, avant le mariage », leur dit Anna. Bien qu'il s'agisse de paysages plutôt moyens, ces deux fils la poussent à reprendre la création, une activité qui, selon eux, pourrait l'aider à sortir de sa crise personnelle. Ils lui achètent du papier et des couleurs. Anna Zemankova se met donc à créer des dessins, en autodidacte, s'inspirant aussi bien des choses qui l'entourent que de la culture populaire morave de sa région natale d'Olomouc et des formes du baroque et de l'art nouveau si omniprésentes dans son quotidien lorsqu'elle vit à Prague. Nous écoutons Terezie Zemankova.
Avant tout, c'était les fleurs existants. Dans sa vie, elle s'est entourée par les fleurs. Il y avait partout les fleurs vivants et artificielles aussi. Elle avait des fleurs sur le décor dans sa maison. Il y avait des fleurs partout. Mais c'est vrai qu'elle a un peu dépassé la nature parce que ce sont vraiment les fleurs très fantastiques. Elle était très fière qu'elle n'a jamais répété les motifs. Il y a des milliers de dessins qui sont restés d'après elle. Et il n'y a pas un motif qui se répète.
C'est en dessinant ces fleurs qui ne poussent nulle part qu'Anna donne la preuve de son grand talent. La création devient alors une partie inséparable de sa vie et elle ne l'abandonnera plus jamais, 30 ans durant. En maison de retraite, Anna continue à peindre la planche posée sur les moignons de ses jambes, mais dans sa maison pragoise, l'artiste ne dessine jamais devant sa famille. Sa manière de travailler est souvent comparée à un rituel, Thérésie raconte.
Elle se levait très très tôt matin, à peu près à 4 heures, avant l'aube. quand tout le monde était encore endormi. J'imagine qu'elle se trouvait dans un état entre la sommeil et la veille. C'était le moment quand elle a commencé à dessiner les premières formes de ses futures images. Et après, pendant la journée, elle s'est installée dans la cuisine, elle a ajouté les détails.
C'est en écoutant Bach, Beethoven, Janáček ou des chansons populaires moraves qu'Anna Zemánková invente son petit monde imaginaire. « Je ne pourrais pas créer dans le silence », affirme la peintre dans un entretien accordé au collectionneur d'art Pavel Konečný. Elle ajoute que le rythme de la musique se reflète dans ses œuvres. Ce sont toutefois avant tout son sens et sa maîtrise des couleurs qui charment et le public et les critiques, y compris Pascal Jeanneret.
Alors elle aimait toutes les couleurs. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'elle n'aime pas le noir, mais paradoxalement, elle l'utilise quand même régulièrement. Mais elle aime toutes les couleurs. Elle aime les couleurs vives, elle aime les mélanger, elle aime les faire résonner les unes avec les autres. Il n'y a pas de limite dans l'usage de la couleur, vraiment. Elle aime aussi volontiers laisser le blanc. Elle colore le dessin, mais peut-être pas le fond. Elle utilise même des couleurs fluorescentes hein, qu'on a peu l'habitude de voir sur des dessins. Mais elle n'hésite pas à se permettre des couleurs vives et intenses.
Comme pour son utilisation des couleurs, les techniques d'Anna Zemánková sont loin d'être ordinaires.
Alors Anna Zemánková aimait beaucoup faire comme elle avait envie. Donc elle a utilisé des matériaux et des techniques classiques. Elle va privilégier le papier, souvent de grandes feuilles de papier. Et puis elle va tout d'abord commencer avec le pastel sec, le crayon, un peu le stylo bille. Elle utilisera aussi de la gouache. Et elle va mélanger ces techniques. Et elle va travailler certaines techniques comme le pastel pour lui donner un autre effet. C'est-à-dire que le pastel qui est quelque chose d'assez volatile, un peu vaporeux, eh bien, elle va y ajouter de l'huile, ce qui va donner un aspect plus pictural. Et elle va le travailler soit avec sa main ou alors avec une éponge, ce qui donne presque l'impression qu'elle a travaillé au pinceau. Donc elle aime comme ça jouer avec des matières classiques pour les utiliser à sa manière. Et comme elle disait, elle n'aime pas du tout qu'on lui dise comment il faut faire. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de son travail, elle va sentir une certaine limite au papier. Le papier est bidimensionnel, ça devient difficile pour elle de rester à cette échelle-là. Et elle va donner du volume au papier. Alors elle va multiplier les couches, elle va procéder par découpage, par collage, par superposition ou intégration d'autres matériaux, comme la broderie, l'incrustation également de strass, de paillettes. Elle va aussi se mettre à la perforation. Elle va également inventer des techniques pour donner du volume au papier, notamment le gaufrage, où elle va vraiment travailler à sa manière. Elle modèle le papier, elle le renforce pour qu'il ait du volume.
À la différence de nombreux autres artistes d'art brut, Anna Zemánková s'est fait connaître déjà de son vivant. À partir des années 1960, sa famille organise dans sa maison à Prague des journées portes ouvertes. La première exposition officielle au théâtre Nazar Bradley à Prague remonte à 1966. Bien qu'elle ne vende pas ses œuvres, elle devient vite populaire même à l'étranger et expose dans le cadre de différentes expositions internationales un peu partout dans le monde. Ses œuvres sont aujourd'hui accueillies dans différentes collections de renommée, dont justement la collection de l'art brut à Lausanne. L'exposition d'Anna Zemánková, qui se tient actuellement dans la célèbre galerie lausannoise, a été initiée par le réalisateur et critique d'art français Philippe Lespinasse.
L'œuvre d'Anna Zemánková était assez connue dans le petit milieu des spécialistes de l'art brut, mais c'était une sorte d'œuvre un peu culte. On connaissait pas toutes les pièces, jusqu'à ce que Thérésie, la petite fille d'Anna, me fasse l'honneur de me laisser ouvrir les tiroirs familiaux. Et là, j'ai eu l'impression de trouver une mine d'or, d'être tomber dans la caverne d'Ali Baba.
Afin de présenter l'artiste dans sa complexité, Philippe Lespina s'a tourné pour l'exposition également un petit film documentaire sur Anna Zemankova. Intitulé « Le jardin botanique d'Anna Zemankova », ce court-métrage d'une trentaine de minutes en version tchèque et sous-titré en français permet de découvrir cette femme exceptionnelle à travers les yeux de sa famille ainsi que grâce aux images d'archives tirées du film « L'homme et femme » du réalisateur tchèque Vlastimil Venclík.
Les œuvres d'Arbrout, elles ne sont pas destinées à voyager. Anna Zemankova, elle n'était sans doute pas hostile au fait d'organiser des expositions dans son travail, mais ce n'était pas le premier de ses désirs. Et le fait de faire des films, le fait de faire des films documentaires, permet de montrer aux spectateurs le lieu et le contexte de création et d'origine des œuvres, de mettre en perspective l'œuvre qu'on a sous les yeux avec le contexte historique, politique et social de la création. Afin que le spectateur se fasse une idée des conditions dans lesquelles Anna a créé. Parce que certes, Anna dessine des fleurs, mais le fait qu'on sache que ce sont des fleurs imaginaires qui n'existent pas, c'est intéressant. Le fait qu'on sache qu'elle ne voulait pas être influencée par le travail et l'art des autres, au point que ses fils même interdisaient à quiconque de lui offrir des livres pour éviter de l'influencer, c'est intéressant. Le fait que au moment de l'invasion de Prague par les chars russes en 68, Anna, elle continue de peindre envers et contre tout et elle est tellement apolitique et décontextualisée qu'elle va offrir des gâteaux aux pauvres petits soldats russes qui sont loin de chez eux, c'est aussi intéressant et ça se voit pas nécessairement dans son travail. Le fait qu'elle soit malade et que petit à petit son espace se réduise et puis sa création se réduise en même temps que sa maladie progresse à l'intérieur de son corps, je trouve ça extrêmement émouvant. Jusqu'à ses derniers jours, elle peint, elle invente et à la fin, elle dessine des œuvres qui ne sont pas plus grandes que des timbres-poste. Et je trouve ça formidable, extrêmement émouvant, très profond. Et pour moi, ça raconte l'énergie incroyable qu'ont certains auteurs.
L'histoire d'Anna Zemankova ne s'arrête pas à Lausanne. L'an prochain, l'exposition rétrospective pourrait se déplacer en France au célèbre musée de la fabuloserie à Dissy, dans le département de Lyon. De son côté, le film de Philippe Lespinas va prochainement sortir en DVD. Les souvenirs de sa petite-fille Thérésie, ainsi que la présentation de l'artiste et de son œuvre par différents critiques d'art tchèques et français, trois poèmes qui lui sont dédiés et un grand nombre de ses dessins font par ailleurs actuellement l'objet d'une nouvelle monographie. L'ouvrage, récemment sorti aux éditions Kant et ABCD, est disponible en tchèque, en anglais et en français.